monde.
Enfin, 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 spectaculaire est de retour, émission numéro 228. Christophe Rollin au micro, mercredi 16 décembre 2020. C'est l'émission, la précédente était le mercredi 14 octobre. C'était la 227 avec Philippe Torreton. Nous sommes en très bonne compagnie. Gérald n'est pas là, mais Julien Poncet, grande figure lyonnaise, directeur du théâtre Comédie Odéon, qui se trouve sur la rue Grolet, va nous parler aujourd'hui des différents spectacles qui n'ont pas lieu. Non. Pour ce qui est de Les Lettres de Montmoulin avec Philippe Cobert sur scène, non. La revue de presse avec Christophe Alévèque, non plus. Il y avait maintes et maintes choses. Alors peut-être qu'un peu plus tard viendra Patrick Timsit, ça peut être possible. Il y a aussi Pierre Palmade. Donc voilà, il y a des grands noms à venir. Mais actuellement, c'est compliqué. Donc, Julien Poncet va nous en parler de lui-même, tout d'abord en début d'émission, comme toujours. Et puis, il va nous parler également peut-être des sentiments, des griefs qu'il pourrait nourrir vis-à-vis de décisions prises et pas tout à fait cohérentes, justes, égalitaires et recevables. Nous allons commencer en musique avec un titre qui pourrait peut-être lancer la chose, de Dominical, « Les Éveillés ». Puissent tous ceux qui nous écoutent éventuellement être bien éveillés à 14h05. Un peu de retard pour commencer cette émission qui ira jusqu'à son terme à 15h, comme tous les mercredis. Vous nous écoutez sur radiocanu.org si vous le faites à Lyon. Sinon, si vous le faites à Lyon, c'est plutôt le 102.2 de la bande FM. Sinon, c'est radiocanu.org. Commençons avec Dominica et nous continuerons avec ensuite Julien Poncet. Gérald n'est pas là, mais je pense qu'il nous écoute alors. Hein. Coucou Gérald. Allez, nous commençons dans quelques instants. Dominica, sur la compile des Inrecuptibles. C'est un numéro sorti, je crois, il y a de cela 2-3 semaines. Les Éveillés, ce titre extrait de l'album Vie étrange. Je te réveillerai jour et nuit si... Ah zut, j'ai pas tout à fait tout retenu ce que disait Dominique. En revanche, ce que je sais, c'est que Julien Poncet, que nous recevons, directeur du théâtre Comédie Odéon, est bien avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et il va donc bien respecter la ligne directrice de l'émission, à savoir un portrait de vous-même, tout d'abord Julien, et puis ensuite peut-être descriptif historique de cette salle, la salle de le théâtre, la comédie, théâtre Comédie Odéon, qui se trouve sur cette rue Grolet. D'ailleurs, peut-être en fait même une seule question que je peux vous lancer, c'est comment est-ce que vous y arrivez en 2012? Pourquoi est-ce que vous arrivez à la Comédie Odéon, Julien?
Alors, je suis pas arrivé tout à fait en 2012, parce que le projet de la Comédie Odéon, tel qu'il existe aujourd'hui, a connu deux étapes, mais je suis arrivé très peu de temps après. Comment j'y arrive? D'abord, parce que, bien évidemment, je suis, comme tous mes camarades, un passionné de théâtre, de spectacle vivant, et que je pense, en tout cas, que la place du spectacle vivant dans notre vie, dans notre société, est importante et qu'il faut toujours l'entretenir, la développer, et qu'il n'existait pas à Lyon à cette époque-là de lieux qui nous permettent de voir des pièces et des spectacles un peu d'adresse directe comme on pouvait en voir au Festival d'Avignon, dans d'autres villes de France. On avait du théâtre d'institution qui est très en place à Lyon, et puis tout ce qui est en marge de ce théâtre d'institution, qui est un théâtre parfois peut-être plus empirique, d'adresse plus directe, qui a des fois d'autres préoccupations, n'avait pas sa place à Lyon, et des tas et des tas de spectacles qu'on pouvait voir non seulement à Paris, mais dans toute la France et dans les festivals, ne passaient jamais par Lyon ni par la case Lyon. Et on avait aussi à Lyon des tas de gens, de comédiens, d'auteurs, de metteurs en scène qui étaient aussi à la porte des institutions, parce qu'on peut pas toujours rentrer dans les institutions, et qui avaient besoin d'un lieu d'expression. Et donc, avec toutes ces conditions réunies, il nous fallait trouver un lieu, et effectivement le théâtre Comédie Odéon sert maintenant d'écrin un peu à ce projet. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire du théâtre Comédie Odéon, en fait c'est un lieu ouvert en 1907 qui a pendant des années fonctionné entre salle de spectacle, cinéma, ce qui a été propriété de Pathé effectivement, et puis qui est très prisé des Lyonnais, et qui a été une des salles du réseau CNP qui était tenu par Roger Planchon.
Dès le début, ce n'était pas que cinéma, ça a toujours
Ça a été surtout un cinéma. Qu'il y a une période dans les années 30 où il y avait aussi un peu de spectacle en mode un peu cabaret dans cette salle. Et puis c'est un lieu de cinéma mythique tenu par un homme de théâtre aussi, hein, Roger Planchon,
oui.
Qui est un cinéma d'arrêt d'essai qui a été fréquenté beaucoup par les Lyonnais, qui aujourd'hui encore pour certains n'ont pas encore totalement intégré
CNP.
Que ce n'était plus un cinéma depuis 2009, mais bien un théâtre. Et ce qui est extrêmement touchant aujourd'hui, c'est de recevoir chez nous des spectateurs qui viennent voir du théâtre et qui nous racontent, par exemple, que leur couple s'est formé au balcon de notre salle devant un film dans les années 70 ou autre. Donc effectivement, c'est un lieu chargé d'histoire. On le voit chaque année quand on accueille le Festival Lumière, que les gens de cinéma sont très attachés à cet endroit et à ce lieu, et quasiment connu dans le monde entier par les cinéphiles. Maintenant c'est un lieu de spectacle vivant, c'est un lieu dans lequel on peut venir voir toutes sortes de spectacles avec cette ligne éditoriale qui était la ligne du théâtre. Je dis bien qui était, parce que avec ce qu'on vient de vivre, et on va en parler, je pense qu'il va
la
nous
matière
falloir
principale.
Vraiment reconstruire
on pourra peut-être déborder sur 15 heures
reconstruire un projet, mais jusque là, pour nous, c'est un projet de théâtre un peu total qui nous permettait jusqu'à cette saison de produire à peu près un peu plus de 600 levées de rideaux par an, un spectacle spectacle tous les jours à 19h, un autre à 21h.
Ça, c'est stupéfiant.
À 19h, un spectacle d'écriture contemporaine, j'ai envie de dire tout sauf une comédie, et à 21h, une comédie, un spectacle de théâtre pour se distraire, pour rire, des boulevards contemporains, assez bien foutus, avec qui se situe un peu dans l'air aujourd'hui du temps. Et donc, ce mélange de rire et d'émotion, cette passerelle qu'on essayait de créer entre deux publics qui, semblait-il, s'opposaient, mais en fait pas du tout. Voilà, c'est comme ça qu'on a pu jouer à la fois des pièces d'Alexis Michali, comme Le Porteur d'Histoire. On a reçu 42 000 spectateurs qui sont venus voir cette pièce qui n'est pas une comédie. Mais c'est aussi comme ça qu'on a pu sortir de nos murs, produire le spectacle Les Naufragés qu'on avait créé dans le hangar de la Halle de Bourg.
Emmanuel Mérieux.
Avec Emmanuel Mérieux, voilà. C'est comme ça voilà, qu'on peut porter en tout cas une entreprise de spectacle vivant qui a cette particularité d'être un peu singulière dans son modèle et dans sa forme. Voilà, en tout cas, la ligne directrice de tout ça, c'est de se dire le spectacle vivant sert à quelque chose. Se rassembler pour vivre ensemble des émotions, c'est extrêmement utile pour faire société, pour faire corps, pour développer la solidarité entre les générations, entre les classes sociales, entre tous les publics. Et puis, quand même, le point commun de tous les spectacles qui jouent chez nous, c'est qu'il y a toujours à l'intérieur une idée dont on essaye de créer voilà, les conditions de sa diffusion dans l'esprit des gens. On aime bien que quand les gens sortent de la salle, ils se mettent à discuter, échanger, et c'est un peu ce qui guide la ligne de la programmation.
C'est très très bien, très beau, très riche tout ce que vous dites, mais il y a beaucoup de on, de nous. Je me doute qu'effectivement toute une équipe se trouve derrière vous, Camille 14, que je salue. Mais vous, Julien Poncet, vous avez évoqué ces années 70, à défaut d'arriver à Lyon, je crois que vous venez au monde dans ces années-là.
C'est ça.
C'est pas encore à Lyon, hein. Il m'a semblé lire quelque part Nantua. Bon, on accepte, c'est la région. C'est... Mais moi, j'aimerais...
Mes grands-parents habitaient à Lyon.
Ah bon, alors voilà. ça va.
Je viens à Lyon
vous
depuis...
Vous montrez pas de blanche.
Depuis ma naissance. Voilà, mes grands-parents habitaient dans le quartier Montplaisir, très loin de l'Institut Lumière. Voilà, mon père est d'origine lyonnaise, mais effectivement, je suis un catholard né à Nantua, dans le département de l'Ain, le fameux département de l'Ain, un endroit où j'ai passé effectivement mon enfance et mon adolescence. Un endroit imprégné, voilà, pour moi, de plein de souvenirs, et aussi ce souvenir de l'ennui qu'on peut ressentir parfois dans nos campagnes et qui nous pousse à essayer de nous dépasser, voilà, à travers des projets et qui, voilà, m'ont construit et m'ont conduit aujourd'hui à faire du théâtre.
Et alors, il y a eu un projet, je crois, avec Madame Meister. C'est ça.
Vous êtes vraiment bien renseigné.
Oh ben je...
C'est flippant.
Et donc, il y a cette île des esclaves, un spectacle, une pièce de Marivaux que vous voyez collège, lycée.
C'est ça, en classe de 3e. Ah. C'est effectivement mon premier choc théâtral. Voilà, où notre professeur de français, à qui aussi je rends hommage et que je salue, qui effectivement nous avait conduit à un spectacle tenu dans un cinéma, d'ailleurs, à l'époque, le cinéma de Nantua, une représentation de L'île aux esclaves de Marivaux par la compagnie de la Charabotte, qui est une fameuse compagnie de Hauteville-Lontenesse. Effectivement, si nous allions au théâtre à reculons, plutôt, si nous préférions à l'époque le baby-foot, effectivement, elle a bien fait d'insister et de nous amener à cette représentation en nous tirant par l'oreille, parce que effectivement, c'est mon premier choc voilà, devant un spectacle de théâtre, et à la fin de cette représentation, je crois que je me suis dit, j'aimerais beaucoup faire ça.
Et alors ça, je suis pas assez au courant de tout vous concernant, puisque voilà, je vais le dire comme ça, tout nettement, je vous connaissais directeur, mais je vous découvre metteur en scène. Je ne sais plus quel spectacle. Si, un spectacle de Jacques Chambon, je crois, au texte. C'était le...
La première devait être hier soir.
Oh, finesse,
voilà,
c'est impossible.
On va revenir au sujet du moment. Mais oui, je devais mettre en scène, mais je le ferai aussitôt que possible, une pièce qui s'appelle Frangin.
Ah voilà, avec Olivier Marchal.
Chambon, avec Olivier Marchal et Pasquale Dinca, un fameux comédien lyonnais.
Mais metteur en scène, ça, vous voulez depuis quelque temps déjà ou alors,
Oui, en fait, j'ai toujours monté des spectacles depuis le début. Après, depuis que je suis au Théâtre Comédie Odéon, je me suis beaucoup préoccupé de monter ce projet, de faire en sorte que plein de metteurs en scène, plein de comédiens puissent, dans un projet très collectif, voilà, trouver leur épanouissement sur scène. Et je me suis consacré à ça. Et maintenant que le projet, enfin je dis voilà, maintenant que le projet est en place, non, il est à nouveau détruit. Mais effectivement, j'ai repris des activités de metteur en scène parce que ça me passionne de monter des spectacles. Et là, je monte un spectacle qui s'appelle La plus précieuse des marchandises, un texte de Grimbert au Théâtre Le Public de Bruxelles. Et en même temps, je montais cette pièce ici à Lyon avec Olivier Marchal. Mais tout ça n'est, j'espère, que partie remise.
Et est-ce qu'on évoque un peu la période qui va entre votre arrivée à l'Odéon et puis, ce choc de troisième? Vous faites quelques études, j'avais trouvé
oui,
ça.
J'ai fait des études de lettres, oui.
Donc voilà, vous souhaitez vous en dire quelques mots ou bien on peut écouter Fishback et...
Bah, oui, on peut écouter Fishback, c'est aussi une très bonne idée. Fishback, qui est venu jouer au Théâtre Comédie Odéon il y a 2 ans, parce que je ne l'ai pas dit, mais nous organisons régulièrement des concerts les dimanches, dans un festival qui s'appelle French Connection, qui fait se croiser des artistes lyonnais en devenir, et certaines têtes d'affiches, si on peut les appeler ainsi. Et Fishback était venu jouer chez nous il y a 2 ans, un dimanche. C'était un excellent souvenir.
Eh bien, extrait de l'album À ta merci, écoutons Un autre que moi, et nous allons continuer à parler de ce Théâtre Comédie Odéon qui effectivement programme des choses très différentes. Je crois qu'il y a eu il y a quelques années de cela un concert dessiné.
On a organisé plusieurs concerts dessinés parce que la particularité de notre projet, c'est aussi d'être inséré dans la ville. Et j'ai parlé du partenariat qu'on avait avec le Festival Lumière, mais on a aussi un autre partenariat qui nous tient très à cœur avec une bande très sympathique qui est l'équipe du Festival Lyon BD. Et grâce à eux, chaque année, au mois de juin, on a sur la scène du Théâtre Comédie Odéon des spectacles qui mêlent des auteurs de bande dessinée, des musiciens, des vidéastes.
Je crois que j'ai retrouvé le nom. Putain d'usine.
C'est ça, il y a eu Putain d'usine, effectivement, de FX avec le collectif Improjection, avec qui nous devions, pendant les vacances à venir, jouer les Carnets de cerises.
Ah oui, oui, c'est
une BD qu'ils ont adaptée,
jeune public,
en ciné-concert. Voilà.
Vous vous adressez à tout le monde. Le Théâtre Comédie Odéon s'adresse à tout le monde, mais actuellement, c'est un peu compliqué. Donc, écoutons Fishback, Un autre que moi, À ta merci. Et puis ensuite, on va évoquer Jean Castex, c'est ça, notre chose au gouvernement.
Avec plaisir.
Non, c'est trop facile. Florence Fishback, et nous continuons sur Spectaculaire.
Thank you.
Florence, je crois que c'est son prénom, Florence Fishback, qui était dans un extrait de son album À ta merci, un autre que moi. Et là, pour le coup, titre que je trouve sur la compilation des Inrock, moi je les aime bien, ces compiles des Inrock. Objectif 2017, c'est peut-être le moment où elle est passée à la Comédie Odéon, c'est ça? Au Théâtre Comédie Odéon, je viens de penser.
Je pense que c'est en 2018.
Un peu plus tard, mémoire, 2018. Ouais. Bon, nous recevons, nous continuons donc à recevoir, nous interviewons, nous discutons, une belle conversation avec Julien Poncet, directeur du théâtre Comédie Odéon. Et l'invitation, nous la lui avons lancée, c'est parce qu'il nous a été proposé de, vous avez indiqué la semaine dernière, être disponible avant les annonces gouvernementales qui sont donc tombées, c'était jeudi je crois. Et jeudi donc en écoutant ces annonces, moi je me suis dit, ah, ben, il faut relever le gant puisqu'il a été jeté, il faut inviter Julien Poncet pour lui laisser... comment appeler ça, micro libre, antenne libre. Voilà, 14h25, l'émission se termine à 15h, mais on peut peut-être dépasser. Je vous en prie, Julien Poncet, vous êtes donc bien présenté, vous avez également présenté cette belle salle, le Théâtre La Comédie Odéon. Maintenant, comment parler de cette actualité qui fait qu'aujourd'hui, je crois, ou c'était hier, le déconfinement. C'est le déconfinement, les commerces ont déjà ouvert, ça fait 15 jours, je crois, me semble-t-il, les collèges, lycées sont ouverts, alors... Restaurants, ça reste encore fermé. Et pour ce qui est du monde de la culture, les théâtres, les salles de concert, bibliothèques, elles ont ouvert. Mais les autres lieux sont... Les lieux qui reçoivent du public sont fermés au public.
Voilà. Bon, donc la situation, effectivement, on la connaît tous. Donc ça fait maintenant plusieurs mois que nous vivons tous à travers cette pandémie. Et puis pendant longtemps, en tout cas, nous, les gens de la culture, sommes restés assez disciplinés et avons tout d'abord considéré effectivement que nous ne souhaitions pas mettre les gens en danger. Et on avait accueilli sans râler et sans rouspéter la nouvelle de la première fermeture de nos lieux, voilà,
16 mars,
le 16 mars dernier, un peu résigné, mais un peu comme tout le monde, stupéfait, et dans l'idée de nous protéger les uns les autres. Voilà. Depuis, nous avions été autorisés à rouvrir au mois de juin dernier, nous avons rouvert, nous avons remis la machine en route, nous avons re-répété, nous avons reprogrammé, parce que nous, de toute façon, c'est notre raison de vivre, de jouer et de rassembler des gens pour jouer, et si on peut le faire tous les jours, on le fait tous les jours, et donc dans chaque interstice où il a été possible de le faire, nous l'avons fait.
Les spectateurs sont venus,
voilà,
oui.
Les spectateurs sont venus, en tout cas on avait réussi à garder une sorte
avec
de lien avec
des
les spectateurs.
Fallait...
Alors les spectateurs sont venus dans des conditions que nous avions définies et qui ont aussi été déterminées par les décisions et les décrets gouvernementaux, mais nous avons joué moins de spectacles, nous n'avons joué qu'un spectacle par jour, nous avons appliqué la distanciation physique à l'intérieur de nos salles, et puis des protocoles de désinfection des mains à l'entrée, le port du masque obligatoire, un espace entre les groupes. En tout cas, on avait mis en place un protocole qui avait été jugé extrêmement sérieux et efficace, parce que à plusieurs reprises, le Premier ministre et la ministre de la Culture qui nous avaient reçus pour échanger avec nous sur les difficultés qui découlaient du premier confinement. Voilà, ils avaient jugé que nos protocoles étaient extrêmement safe, et d'ailleurs ils avaient déclaré aucun cluster ne s'est déclaré dans un théâtre, etc. Bon, voilà. Donc ensuite là, on a vécu la deuxième fermeture à un moment un peu violent pour nous parce que effectivement le mois d'octobre, novembre, décembre sont les moments où les gens vont le plus au théâtre, et comme nous avons un projet qui a cette particularité qui est quand même importante, qui ne dépend que de ses spectateurs, c'est-à-dire que chez nous c'est le spectateur qui finance jusqu'à cette période un peu contemporaine où nous avons été aidés, mais nous n'avions jamais reçu un centime d'argent public, et là effectivement aujourd'hui voilà, on avait espoir d'ouvrir le 15 décembre, et nous avons remis toute notre machine en route, et effectivement on ne nous a pas laissé rouvrir. Et cette fois-ci par contre, ce qui est un peu différent des fois précédentes, c'est d'abord que effectivement en dehors des restaurants et des bars dans lesquels on enlève le masque, voilà, donc c'est une situation un peu différente, même si vraiment
c'est délicat, voilà, c'est ça exactement,
pour nos amis restaurateurs, vraiment, voilà, mais voilà, c'est un tout petit peu différent en tout cas d'aller au cinéma et au théâtre que d'aller au restaurant ou dans un bar ou dans une boîte de nuit. Là, on n'a pas compris pourquoi d'un côté on nous disait que nos protocoles stricts étaient très efficaces, beaucoup plus efficaces que ceux qui sont appliqués dans les centres commerciaux notamment, qui eux sont ouverts. On n'a pas compris pourquoi les lieux de culte pouvaient rouvrir et pas nous. La façon dont ça a été fait, c'est-à-dire alors qu'on avait remis toutes nos machines en route, alors que nous avions répété, recommuniqué, reprogrammé, qu'on avait sorti les gens du chômage, qu'on avait aussi ouvert une lueur d'espoir chez les artistes qui ne travaillent plus depuis maintenant très longtemps et qui voient, j'allais dire, leur année blanche, entre guillemets, c'est-à-dire leur statut d'intermittent bientôt arriver à échéance. Voilà, on s'est servi de nous. En fait, pour envoyer un message dans la population en disant la situation est critique, faites attention. Et on a l'impression d'avoir été une variable d'ajustement, d'avoir été un élément de communication pour passer un message à la population. Sauf que derrière cet élément de communication, il y a des gens, des hommes, des femmes qui travaillent, qui ont des entreprises, qui ont des compagnies, qui répètent et qui ont été plongés dans un profond désespoir. Et ça donne aussi le sentiment finalement que la culture n'est pas un élément, ou en tout cas considéré par les autorités comme un socle fondateur de notre société, de notre démocratie, que la santé mentale et psychologique des Français, qui à mon avis trouve son équilibre pas uniquement dans une vie dans laquelle on travaille ou on prend le métro, voilà, n'est pas considéré ou pris en compte. Effectivement, cette fois-ci, il y a quand même beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère et beaucoup d'amertume. Et même si, effectivement, et il faut bien le reconnaître, le ministère de la Culture, mais aussi les collectivités, se préoccupent de notre sort, et nous avons bénéficié d'un certain nombre d'aides, et nous allons continuer à bénéficier d'un certain nombre d'aides. D'abord, c'est pas suffisant. Bon, ça, c'est une chose, mais quand même, il faut le noter. Voilà. Mais surtout, ça ne remplace pas le simple fait de vivre, de travailler, d'échanger, de rencontrer. Et là, effectivement, l'absence de perspective, c'est surtout ça, nous angoisse aujourd'hui énormément. On ne sait pas quand nous allons rouvrir, on ne sait pas comment programmer, on ne sait pas que faire, que dire, et on a vraiment très très peur de perdre le lien qu'on a construit patiemment avec notre public. Le lien avec le public, c'est un rapport de confiance d'abord, et aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que nous sommes mis dans une situation où nous ne sommes plus en mesure de tenir les promesses que nous faisons aux spectateurs en posant des affiches et en vendant des billets. Et ça, pour nous, ça pourrait être à terme et à court terme extrêmement dramatique. Donc voilà, après, moi j'essaye de voir le verre à moitié plein. On a créé pendant ce confinement un regroupement de 80 théâtres de
nationaux, régionaux,
un rassemblement national de 80 théâtres qui ont un peu la même caractéristique que le théâtre Comédie Odéon, c'est-à-dire être des lieux qui ne dépendent que de leurs spectateurs.
Donc alors, pas les TNP, Célestin,
non,
ou
voilà,
Croix-Rousse.
Non, ce sont que des théâtres privés en fait. Hein, voilà, mais qui ont des projets artistiques très différents, hein, les uns et les autres. Mais par contre, on s'est rassemblés et ça nous a permis de faire entendre une voix, d'échanger sur nos pratiques et d'être effectivement reçus plusieurs fois par le ministère de la Culture, qui aujourd'hui, vis-à-vis de nous, est dans une position d'écoute très agréable et sympathique, mais qui néanmoins, face à nous, j'allais dire, fait cet aveu d'impuissance. Je crois que Roselyne Bachelot, qui nous a reçus avant-hier en visio, nous a d'abord demandé notre aide pour convaincre le Premier ministre, le ministre de la Santé.
Ah, ça c'est
plutôt qu'autre chose.
Ça c'est peu commun.
Donc effectivement, on dit que le ministère est avec les théâtres, les artistes, le cinéma, et c'est sans doute vrai, mais par contre, le ministère de la Culture aujourd'hui perd tous ses arbitrages, et en fait, nous, on ne veut pas vivre dans ce monde dans lequel on a autant de mépris pour la culture, et on a autant de mépris pour ce qu'on peut faire ensemble, où on a autant de mépris pour les idées, autant de mépris pour la recherche, autant de mépris pour tout ce qui ne serait pas considéré comme étant mercantile, alors qu'en fait c'est un calcul complètement stupide. L'économie, c'est aussi, enfin la culture, pardon, c'est aussi de l'économie. La culture, ce sont aussi des gens qui consomment, pas seulement dans nos théâtres, ce sont des entreprises qui produisent, qui vivent et qui participent au rayonnement de nos idées, de notre territoire et de notre nation. Et aujourd'hui, voilà, on se sent écrasé par un modèle que nous rejetons.
Ça me laisse sans voix, je me fais seulement cette réflexion. Je me dis qu'actuellement, un Julien Poncet serait impossible, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas y avoir de représentation de l'île des esclaves de Marivaux, et vous ne pourriez pas, si vous étiez non pas dans les années 70, mais en 2020, vous ne pourriez pas découvrir ce spectacle, et vous ne pourriez pas recevoir, vous l'avez qualifié comment, un choc, c'est ça, vous avez dit, vous ne pourriez pas entrer dans ce...
C'est ça. Voilà.
Cet univers-là.
Non, mais c'est ça, et moi je pense qu'on ne peut pas vivre sans culture, et après, bien évidemment, on a des tas de gens un peu mauvais coucheurs qui nous diront, faites le dos rond, on peut patienter encore 2 mois, 3 mois, on peut aussi vivre un temps sans théâtre, sans cinéma. J'entends cette chose-là, mais ce qui est problématique aujourd'hui, ce n'est pas d'être fermé encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce qui est problématique, c'est d'être à ce point, j'allais dire, considéré comme inutile par les pouvoirs publics. C'est ce qui est extrêmement agaçant aujourd'hui. Après, de la détresse, il n'y en a pas que chez nous. Bien sûr que dans nos théâtres, on est tous, j'allais dire, un peu au plus mal, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de détresse dans le monde étudiant. On sait qu'il y a des gens qui sont à des âges pivots pour lesquels on peut parler de génération un peu sacrifiée, et c'est encore plus grave. Mais ce que je peux dire concernant la culture, c'est que nous, il nous faudra pas 6 mois, 1 an pour nous redresser. On ne sait pas si les gens reviendront dans les salles, d'abord quand nous allons rouvrir, et puis, j'allais dire, comme tout notre système est à plat, et que monter, organiser, porter un projet, ça prend au moins 3 ans, on sait que pendant les 3 ou 4 ans à venir, nous ne serons toujours qu'en période de reconstruction, de redémarrage, et les répercussions, j'allais dire, de ce mépris et de cette absence de politique et de projet culturel en ce moment, vont contribuer aussi à sacrifier une génération. Je crois que la culture soigne les âmes, et que aujourd'hui nos âmes sont malades, et que il y a pénurie de médicaments.
Oui, alors, avec ce que vous dites là, on ne peut que grandement s'inquiéter. Vous parlez seulement peut-être 1 ou 2 mois à nouveau, de fermeture à venir, mais c'est ce mois ou ces 2 mois ou 3 mois de fermeture, peut-être comment qualifier ça ? Peut-être qu'on prend en otage, ou disons, on compromet toute une suite, toute une...
Nous, soyons clairs, la saison est foutue. C'est-à-dire que le cœur, le moteur de notre projet est alimenté par la fréquentation de notre lieu en octobre, novembre, décembre, janvier, février, ce qui nous permet aussi de proposer aux Lyonnais toute l'année du théâtre. En juillet, en août, on est tout le temps ouvert, nous. J'ai envie de dire, nous n'avons aucune perspective.
Au 16 décembre,
nous n'avons aucune perspective. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est avoir de la part des autorités une date de réouverture, peu importe qu'elle soit dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, j'ai envie de dire.
Pour pouvoir travailler.
Et une date qui nous permette de nous projeter, de nous organiser, et une date dont on sait qu'elle sera ferme. Et si elle intervient en pleine pandémie, eh bien, il faut faire confiance à nos protocoles, il faut faire confiance au public. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une seule embrouille pendant les 3 mois où nous avons été ouverts entre juin et octobre.
Ça c'est important de le dire, ça.
Voilà, il faut faire un peu confiance, nous ne sommes pas des enfants, nous n'avons aucune envie que les gens se mettent en danger dans nos lieux, nous dépendons de notre public, nous n'avons pas envie de le rendre malade, nous n'avons pas envie de le mettre en danger, nous n'avons pas envie de nous mettre en bisbille avec lui. nous, aujourd'hui, voilà, nous sommes des gens responsables qui appliquons des protocoles stricts, beaucoup plus stricts que dans n'importe quelle grande surface, dans n'importe quel transport. Finalement, je ne connais pas d'endroit, moi, aujourd'hui, peut-être à part dans les hôpitaux, en chirurgie ou autre, où les protocoles sont aussi stricts que chez nous. Voilà, et encore, on est encore prêt à les renforcer. Voilà, mais voilà, laissez-nous travailler, laissez-nous exercer notre liberté d'expression, parce qu'à un moment, c'est même de ça qu'il s'agit.
Voilà, je laisse un blanc parce que je ne sais pas comment réagir, comment rebondir. Liberté d'expression, oui, c'est vrai, on vous bâillonne. Enfin, du moins, vous ne. Les lieux étant fermés, il n'y a plus d'expression qui se fait sur scène ou par ailleurs. Quoique si, j'ai pu lire quelques tribunes, et puis c'est ce que je vous disais ces derniers jours quand on s'est un peu contacté, c'est que voilà, il y a quelques émissions radio, j'ai pu entendre à différents endroits. Enfin voilà, il y a quand même quelques réflexions qui se mènent, mais c'est vrai que c'est vous.
La radio c'est super.
Ouais.
D'ailleurs, on peut faire des podcasts. Enfin, on a tous imaginé toutes sortes de choses pour essayer de rester en contact avec notre public. On a imaginé toutes sortes de choses pour être aussi auprès des gens.
Ah ouais.
Voilà, tout bêtement, pour voilà, exercer notre fonction d'artiste. Ouais. Bon, voilà. Néanmoins, nous, ce qui nous anime, voilà, c'est le spectacle vivant, c'est-à-dire avoir un rendez-vous avec un public et vibrer ensemble, sur des mots, sur des textes, rire, être ému, rire à nouveau, être ému à nouveau, se laisser emporter, embarquer dans des récits, des histoires, apprendre des choses.
Être contrarié aussi.
Être contrarié,
être stimulé,
peu importe. Être
ouais.
Stimulé, être mis face,
froissé, blessé,
être mis
vexé,
face à des idées, peu
réjoui,
importe. En tout
ouais.
cas. Ce dont on a besoin, c'est de vivre des émotions collectives pour nous sentir reliés les uns aux autres et pour faire société et justement combattre toute forme de barbarie qui enferme et qui cloisonne.
Je lisais dernièrement que ce sont les séries télévisées qui vont sortir vainqueurs, enfin du moins qui vont tirer un bon bout de la couverture à elles, parce que enfin voilà, les gens vont les consommer à la télévision parce que les cinémas restent bouclés aussi, alors que un rendez-vous au théâtre, un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel, ça peut être aussi une bonne dépendance. On peut être bien accro et voir des gens quand même sur scène, c'est autre chose que voir des comédiens avec des tournages et des scènes qui peuvent être montées, remontées, avec des effets spéciaux, tout ça. Non, là quand un acteur est seul sur scène, et d'ailleurs je vous remercie encore, il est très bien fait ce site comédieodeon.com.org. Il y a toujours des petites vidéos, des petits teasers qui donnent une idée du spectacle, et c'est bien, même parfois on peut avoir une interview de l'interprète. Par exemple, je regardais Jacques Chambon qui devait être sur scène actuellement, non? Ou c'était prochainement, ou c'est passé?
Il devait faire quelques dates de son spectacle La vie est une fête pendant les fêtes.
C'était un nouveau seul en scène, Jacques Chambon, que nous avons reçu ici il y a de cela quelques années. Il était auteur du texte, mais il n'était pas comédien, je crois. Il ne mettait pas en scène non plus Les Sentinelles.
Ah si, dans Les Sentinelles, un spectacle que...
Ah si, oui, il
jouait. Accompagné.
Il jouait.
Il joue à l'intérieur. Il en est l'auteur et un des interprètes.
Et donc Jacques Chambon, pour terminer, vous mettrez en scène son TF1. Si vous avez une date, si on vous la donne, vous mettrez en scène un autre de ses textes, Frangin, avec Olivier Marchal, une figure quand même qu'on connaît, et c'est ça qui peut être bien, enfin du moins qui peut être bien, pas seulement, mais ça peut jouer quoi. Olivier Marchal, le flic du cinéma français, ancien policier, lieutenant, commissaire.
Exactement, ancien flic qui a poursuivi une carrière artistique d'auteur, réalisateur, comédien.
Et ça marche.
Tout à fait remarquable.
Oui. C'est ça. Et, donc,
et on avait la chance, et pour ma part l'honneur, d'avoir reçu sa confiance pour un projet issu du territoire lyonnais, justement, parce que Jacques est un auteur qui vit et exerce et travaille à Lyon, parce que Pasquale Dinca, qui accompagne Olivier Marchal sur scène, est aussi un comédien lyonnais, et on était très heureux de créer ce spectacle chez nous. J'étais moi particulièrement fier de le mettre en scène, et ensuite de tenter de faire vivre ce spectacle sur les routes de France et à Paris. Et mais bon, ça voilà, c'est notre petit kiff, qui c'est pas grave, on peut le remettre à plus tard. C'est pas ça qui est grave. Un projet, voilà, on le prend, on le décale, on se réorganise. Mais ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est de le faire dans cette atmosphère délétère, dans laquelle on a compris que nous étions une simple variable d'ajustement. Voilà, une sorte de nous nous sommes fait manipuler. Voilà. Et c'est un sentiment très désagréable. Nous n'étions pas consentants.
Je propose une petite, un instant musical. Écoutons, le CD vient de sortir. C'est un enregistrement du concert de l'Hôtel Dieu. Et alors, c'est amusant. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que des boucles dans cette émission. Vous parliez, je reviens encore sur ce souvenir d'avoir vu l'île des esclaves dans une salle qui était un cinéma. Et vous-même, vous êtes à présent directeur d'une salle qui était un cinéma. Et là, le concert de l'Hôtel Dieu, on vient, en antenne, on l'évoquait. Jacques Chambon est venu pour les Sentinelles, mais Franck Pithiot est également venu, je crois que c'était peu de temps après, pour le spectacle qu'ils montaient tous les deux, dans lequel ils intervenaient tous les deux ensemble, et qui était avec le concert de l'Hôtel Dieu, Les Métamorphoses. Et là donc, le concert de l'Hôtel Dieu, qui est également dans une situation assez délicate ces temps-ci, a tout de même pu sortir un bel album, La Francesina, Handel's Nightingale, avec la fantastique soprano Sophie Juncker. Donc l'album vient de sortir, le CD vient de sortir, l'enregistrement s'est fait en 2019. Je pense qu'entre juin 2019 et une sortie en octobre, la période Covid, confinement de début d'année 2020 a dû jouer. Donc écoutons le dernier titre, Nemen con l'ombre d'infedelta, pas même avec une ombre d'infidélité, je ne trahirai mon âme. Et si malheur arrivait à mon bien-aimé, l'amour et non la jalousie en serait la cause. Écoutons donc Sophie Juncker sur cet album qui, je pense qu'on peut tout de même l'acheter à la FNAC ou dans d'autres commerces, mais pour ce qui est de la boutique du concert de l'Hôtel Dieu, je crois que c'est fermé. Vous-même, vos bureaux, on peut vous voir travailler à la Comédie au Théâtre
Comédie
Odéon.
Oui, parce que la face est vitrée.
c'est agréable quand même. On voit qu'il y a de la vie.
Non, mais oui, on voit qu'il y a de la vie, mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est de décaler, reporter 110, 115 dates programmées et de prévenir les centaines et milliers de spectateurs qui avaient acheté des billets et de reprévoir et de négocier nos traites et nos dettes et nos charges.
Et ça, c'est pas du boulot agréable, ça.
Non, mais c'est un boulot titanesque, énorme, et nous avons fait et redéfait. Et nous avons tourné dans le vide, et nous avons pris des engagements que nous ne pouvons tenir, des dizaines, des centaines. Ça fait de nous des gens qui ont l'impression d'avoir perdu le sens des choses. Donc, en fait, on travaille pas moins qu'avant, hein. On travaille tout autant, simplement on travaille tout autant en étant d'abord au chômage. Parce que les équipes sont au chômage sans perspective.
Écoutons cet extrait de cet album, La Francesina. C'est le concert de l'Hôtel Dieu qui joue. C'est également un ensemble local. Franck-Emmanuel Comte et son ensemble sont de Lyon. Écoutons-les, et puis il nous restera encore un peu de temps pour faire quoi? Je ne sais pas, nous verrons bien. Spectaculaire, 14h48, écoutons La Francesina. Nous écoutions un instant Sophie Juncker, soprano, avec le concert de l'Hôtel Dieu, dirigé par Franck-Emmanuel Comte, dans cet enregistrement extrêmement récent. La Francesina, Handel's Nightingale, c'est un album, donc différents airs de Handel, et c'est très beau. Enfin vraiment, je vous invite à écouter ce CD au casque, parce que alors, c'est magnifique, la soprano est stupéfiante, et la qualité d'enregistrement est prodigieuse. Et c'est important, Julien Poncet, de dire ça, que le concert de l'Hôtel Dieu est un excellent ensemble. Mais se font également de magnifiques spectacles, de très beaux spectacles au théâtre Comédie Odéon. Et nous proposions à l'instant, je vous indiquais qu'on pouvait peut-être parcourir cette liste de spectacles qui n'ont pas lieu. La vie est une fête, je vois.
Si vous aimez vous faire mal, allez-y.
Les carnets de cerises. Alors, les carnets de cerises, c'est en plus. Enfin, si vous l'avez évoqué
tout
à l'heure.
Oui, c'est un baiser concert, ce que j'expliquais.
Et c'est jeune public un peu, c'est ça?
Oui, c'est du spectacle jeune public. Bah, tout public, mais voilà. On peut venir avec ses enfants.
Et alors, Les Naufragés, ce n'est plus chez vous, mais il est en tournée.
Enfin, Les Naufragés, le spectacle est en tournée. Et il devrait être en tournée. On a annulé déjà beaucoup de dates. Et il y a une date en préparation dans un lycée. Une façon un peu de contourner vers Toulon, qui devrait peut-être se monter là, dans cette période Covid.
C'est quand même autorisé, mais très très bien. Chut. C'est bon, d'accord, nous n'avons rien dit. Il y a encore d'autres choses aussi. Il y a, je vois le Petit Prince, la Reine des Bisous, je vois, enfin, plein de choses. Il y avait une soirée spéciale 31 décembre avec Philippe Cobert, c'est ça?
C'était... Oui, alors Philippe Cobert devait revenir. La Reine des Bisous, c'est un spectacle jeune public. Philippe Cobert, qui a été interrompu dans sa série des Lettres de Montmoulin, voilà, devait revenir, reviendra quoi qu'il en soit, parce que voilà, on devait jouer.
Parce que ça a bien commencé, les premières.
Oui, ça a très bien commencé, c'était très bien parti. Et voilà, et de toute façon, Philippe Cobert est un comédien légendaire et extraordinaire. Donc voilà, ça vaut le coup de le voir dans Les Lettres de Montmoulin ou n'importe quel. C'est une leçon, une masterclass de théâtre. On avait, effectivement, on reprenait Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik pour le 31 décembre.
Alors, sur Alexis Michalik, parce que voilà, peut-être que comme ça ne dit pas tout à fait grand-chose aux gens, alors que quand même, c'est avec Edmond, ça a été un énorme succès sur les scènes parisiennes.
Oui, Alexis Michalik, il a 14 Molières au compteur. Voilà, c'est l'auteur contemporain le plus prolifique.
Un film a été tourné
ce film. Et voilà, Alexis Michalik est l'auteur de 5 pièces qui sont en permanence à l'affiche à Paris.
Et Le Porteur d'Histoire.
Dans la France, dont Le Porteur d'Histoire que nous avons remonté ici au Théâtre Comédie Odéon avec des comédiens lyonnais qu'il est venu mettre en scène, une sorte de franchise entre guillemets. Voilà, donc c'est un partenaire de notre théâtre très régulier, puisque nous devions aussi créer la pièce Intramuros, qui est, pour tous les gens qui ont vu Le Porteur d'Histoire chez nous, je leur conseille de venir voir Intramuros, qui est une pièce écrite après Le Porteur d'Histoire, et c'est voilà le procédé d'Alexis Michalik poussé encore un peu plus loin, une pièce tout à fait incroyable qui se passe dans un centre pénitentiaire. Et puis voilà, on a annulé aussi Et les enfants seront bien gardés, une comédie extrêmement drôle, satirique et mordante sur la famille recomposée qui nous avait été inspirée un peu par la stupéfaction de ce qu'on avait pu voilà réaliser au moment des manifs du mariage pour tous. Et puis voilà, on a Didier Super qui devait être là.
Il est bon, le titre du spectacle. Oui, Didier Super est bien plus marrant que tous ces comiques de merde.
Voilà, c'est Didier Super. voilà, on avait aussi les Chiches Capons qui devaient venir
fin janvier. Opus Ultimus.
Voilà, les Chiches Capons qui sont quand même ce qui se fait de plus habile et de plus expert en termes d'absurde et de clownerie. Voilà, on a
Pierre Palmade qui joue ses sketchs.
Voilà, Pierre Palmade qui a ressorti des sketchs de ses 20 ans qu'il n'avait pas joué sur scène et qui joue
Scrabble,
aujourd'hui avec
c'est
la
génial.
Maturité. Voilà. Donc on a été très heureux d'accueillir Pierre Palmade.
Le cannabis aussi, je crois. Voilà. Je pense que ça me fait rire.
On avait Simon Astier qui devait venir jouer le discours de Fab Caro.
Je suis en train de commencer à lire le texte. C'est un roman, alors que Fab Caro, auteur de bande dessinée.
Oui, parce qu'on avait aussi Zai qui devait jouer chez nous et qu'on a annulé.
C'est hilarant. Hein. Fab Caro, il a un humour qui est.
Exactement.
C'est génial.
Donc voilà, on avait on a Mademoiselle Molière avec Anne Bouvier qui, pour son interprétation de Mademoiselle Molière a reçu le Molière de la meilleure comédienne l'an passé. On avait des tas de spectacles.
Hassem Doubachung, Tristan Lopin dans l'irréprochable. Patrick Timsit à venir en mars prochain.
Voilà.
Il y a une belle programmation. Donc voilà. Alors, comment dire, il y aura
je ne sais pas, en fait. Je suis vraiment désolé, mais je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Je ne sais pas. Nous allons l'improviser, le réfléchir, même si ce que nous faisons demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation, parce que notre projet, c'est un théâtre populaire de qualité, donc c'est pas du tout du vite fait, mal fait, c'est au contraire beaucoup de travail, beaucoup de répétition, beaucoup de précision dans l'interprétation, dans la technique, dans le son, dans la lumière. Voilà, c'est ce qui sous-tend ce que nous faisons, c'est produire et montrer du théâtre accessible, populaire et de grande qualité. Et donc pour tout ça, c'est énormément de travail. Et aujourd'hui, on est condamné à improviser ce que nous devons faire. Donc voilà, d'où un peu mon désappointement que vous sentez peut-être.
Ah, carrément. On ne peut être effectivement que désabusé, que contrarié, que fâché par cette situation. Alors, il y a quand même une date qui est me semble-t-il lancée du 15 décembre. Ça passait, je crois. Bon, c'est pas encore tout de suite, ça passait à début janvier, mais bon, est-ce que ce serait encore une sorte de, comment nommer ça, un pis-aller? Il me semble avoir entendu parler du 7 janvier, je crois. Je sais pas si c'est un jeudi, oui.
C'est, ouais, mais comme dit Roselyne, le 7 janvier, c'est une clause de revoyure.
Oui, voilà, c'est ça, il n'y a rien de...
Oui, non, moi je ne pense pas du tout que nous allons rouvrir le 7 janvier, et encore, on nous dirait maintenant rouvrir le 7 janvier. Comment voulez-vous qu'on redémarre un théâtre
c'est quand même compliqué, oui.
En 15 jours?
Non, les choses sont tout à fait délicates. Alors généralement, en fin d'émission, Julien, nous annonçons les différents spectacles à venir, Gérald et moi. Les spectacles aussi que nous avons vus, mais j'aurais bien aimé aller voir Fracasse au Théâtre des Célestins. Non, rien. Il y avait aussi, actuellement, il y avait... L'opéra de Béatrice et Bénédicte de Hector Berlioz devait être donné sur la scène de l'opéra et donc annulé aussi. Mais certains de ces spectacles annulés, ils sont parfois, c'est ce que vous m'avez indiqué tout à l'heure, il est question, enfin il y a des podcasts qui sont faits ou différentes choses, des captations vidéo. Et là, je crois avoir lu que le Béatrice et Bénédicte de Berlioz serait capté et serait ensuite visible peut-être sur France Télévisions ou sur une autre plateforme, je sais pas. Alors que vous, non, vous n'avez pas joué à ces podcasts ou vidéos ou non les...
On a essayé de faire des petites captations du streaming et autres, mais rien ne remplace le spectacle vivant. Par ailleurs, faire une captation de qualité nécessite de mobiliser des moyens dont nous ne disposons pas aujourd'hui.
Bon, eh bien, je crois que tout est dit. Alors, nous allons essayer de diffuser un dernier titre pour clore cette émission. A priori, généralement, en fin d'émission, j'annonce aussi les autres émissions à venir, mais Blues des Canuts, je pense qu'aujourd'hui, non. On n'arrête pas le prog, l'émission est terminée. Mayday à 18h, je ne pense pas. Canu Info, les Canu Info ont bien eu lieu ces derniers temps, donc à 19h, ça devrait être possible. Demain, jeudi également. Pour nous, auditeurs, auditrices, on va se dire au revoir aujourd'hui à la Valérie Giscard d'Estaing. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est ça. Mais on va pas forcément se donner rendez-vous au 6 janvier parce que si les spectacles n'ont pas encore repris, je pense que Julien, vous le comprendrez très bien. L'émission, le nom de cette émission spectaculaire, c'est on dépend des spectacles. S'il n'y a pas de spectacle, c'est la raison pour laquelle on a fait relâche depuis la mi-octobre parce que.
Bah aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous sommes spectaculairement dans la merde.
Oui, c'est ça. Alors je suis quand même content que vous ayez pu venir pour nous parler, pour nous dire tout ça, parce que quand même, moi personnellement, je voulais refaire une émission avant de finir cette année. Là, c'est quand même dommage d'en être resté à 227 là, à la mi-octobre. Voilà, on aura fait 228, mais c'est vrai que depuis février dernier, les émissions là en 2020, on en aura pas fait beaucoup, parce que les spectacles, il n'y en aura pas eu énormément non plus. Ça aurait été très compliqué, très délicat. Donc, les émissions à venir, je ne sais pas, pour la journée et pour les prochaines spectaculaires, la 229. Quand sera-t-elle ? 6 janvier, je ne pense pas. Peut-être le 13. En mars, peut-être, si Patrick Timsit est là. Enfin, moi, ça me plaît bien.
Je vous l'amènerai.
J'aime bien toujours ces grands noms-là. Pierre Palmade et puis même Olivier Marchal aussi. Ou Jacques Chambon, si Jacques Chambon pouvait revenir avec grand plaisir. Bon, je crains que ça ne fonctionne pas. Si, magnifique. Magnifique, je l'ai. Donc, un titre nommé... Comment s'appelle-t-il ? C'est tout comme, c'est ça ?
C'est tout comme, oui.
C'est tout comme pour terminer, je le mets dans la machine, voilà, je fais un peu comme le théâtre Comédie Odéon ces jours-ci, enfin voilà, je procède à différents, alors ce n'est pas du remboursement de place, c'est pas la reprogrammation, a priori je l'ai.
C'est une artiste, Edwige Bailly, qui est aussi comédienne et avec qui nous préparons un spectacle qui s'appelle La mort par les plantes et qui va sortir en album, et donc c'est une exclusivité pour Radio Canu.
Très bien, donc je la lance, mais avant cela, il faut qu'on en reste là. Julien, je vous dis au revoir.
Eh bien, moi aussi, je vous dis au revoir, merci infiniment.
Mais un vrai, il faudra se revoir.
Avec plaisir, et merci infiniment pour votre invitation. J'étais vraiment hyper content de venir dans cette radio mythique.
Merci à vous, merci pour ces mots, merci Julien, merci à Camille qui a rendu ce rendez-vous possible aussi. Auditeurs, auditrices, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu parce qu'il y a les bandes continues et je crois qu'il y a des gens qui aiment bien ces bandes continues.
J'adore.
Et puis sinon, la télévision, n'abusez pas trop des séries. Non, le spectacle vivant, enfin du moins, le vrai spectacle, on peut le dire comme ça quand même, le vrai spectacle, c'est le spectacle vivant et il se voit sur scène, le spectacle vivant. Il se voit pas ailleurs.
Nulle part ailleurs.
C'est tout comme Edouche Bailly. Restez à l'écoute de Radio Canu. Au revoir Julien, merci.
Salut. Merci, salut.
C'est pas comme si depuis le septième ciel où tes anges s'abandonnent, tu me traitais de conne. Comme si j'en avais jamais plus rien à faire d'être sous d'autres hommes. Comme si plus rien ne vibrait en moi en somme. C'est pas comme si dans les airs qu'un automne, comme si plus rien ne criait, qu'on n'entendait plus personne, comme si plus rien ne brillait.
Mais c'est tout comme...